de la gorge, du larynx. Il y a une modification physiologique, comme le corps change dans beaucoup d'endroits, ça change là aussi. Et donc, les cordes vocales, ça baisse, etc., ce qui fait un son plus grave. Les garçons parlent plus, au lieu de parler un peu du nez, ils parlent plus de la gorge, donc ça fait un son plus grave.
Comment les garçons peuvent-ils se rendre compte qu'ils produisent des spermatozoïdes?
Alors qu'ils produisent des spermatozoïdes, ils ont peut-être du mal à s'en rendre compte parce que ben, ils vont pas les voir. Mais ce qui se passe quand même chez le garçon, on n'en a pas encore trop parlé, c'est qu'ils vont commencer à avoir des érections. C'est quand le pénis se gonfle, c'est ça, se gonfle de sang, il devient dur. Et donc à la suite de ça, les garçons ont ce qu'on appelle une éjaculation. C'est le sperme qui sort du sexe. Voilà, et dans le sperme, il y a des spermatozoïdes. Donc c'est pareil, on en reparlera plus tard.
Est-ce qu'il y a un moment de la vie où on ne fabrique plus de cellules de reproduction?
Quelqu'un sait, quelqu'un peut répondre à ça. Vous avez certainement entendu parler de ça aussi.
À 40 ans?
Quand on commence à vieillir vers 51 ans, 52 ans.
C'est un changement du corps où la femme, elle commence à ne plus fabriquer d'ovules.
Voilà, c'est exactement ça. Comme ça commence à la puberté, eh bien chez la femme, ça s'arrête. Ça s'arrête au moment, ça s'appelle la ménopause. C'est-à-dire qu'on ne fabrique plus d'ovules, c'est ça, il n'y a plus d'ovulation. Le cycle s'arrête. Par contre, les hommes, ils ont l'avantage sur nous, c'est qu'ils peuvent avoir des enfants jusqu'à... il n'y a pas d'âge. Alors, il y a peut-être un peu moins de spermatozoïdes, mais ils peuvent faire des enfants à 80 ans, 90 ans. C'est ça la différence des hommes et des femmes. Donc, je vais juste spécifier une petite chose, c'est que la ménopause arrive aux alentours de 50 ans. Hein. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus pour les femmes.
Comment se fait-il qu'à l'adolescence, on ait parfois mal dans sa peau et on se désintéresse parfois de l'école?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi on est mal dans sa peau un peu?
Parce que par exemple, on se regarde dans un miroir, on croit qu'on est moche, on n'est pas assez bien, quoi.
Le corps change, et comme on n'a pas l'habitude que le corps change, et bah, on a du mal à s'accepter.
Des fois aussi, quand on est adolescent, bah, on se dit que on n'arrive pas à trop comprendre. Les adultes n'arrivent pas trop à nous comprendre.
Effectivement, au moment de la puberté, je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs au début, c'est qu'aussi on grandit beaucoup. Hein. Les garçons prennent sur plusieurs années 20 cm, 30 cm quelquefois. Donc effectivement, on change, les filles aussi grandissent. Donc on a des boutons d'acné, effectivement, y a la poitrine qui pousse, on s'élargit au niveau du bassin, les filles. Et donc tout ça, en quelques années, c'est difficile de voir son corps. On se ressemble plus, c'est plus nous. Donc c'est vrai que c'est une étape qui est pas toujours facile. Il y a des filles qui ont beaucoup de poitrine, donc c'est difficile de supporter ça vis-à-vis des autres, qui grandissent beaucoup plus. En CM2, il y en a qui sont très grandes par rapport à d'autres. Parce que je vous ai dit, personne ne grandit au même âge. Donc il y a des fois, c'est vrai que c'est difficile pour certains. Mais il faut se dire que ça arrivera de toute façon à tout le monde. Et puis, vous avez des gens qui vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler à vos parents, vous pouvez en parler à la maîtresse, à l'infirmière. L'année prochaine, vous aurez une infirmière au collège. Vous pouvez aller lui parler de vos petits soucis.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. C'est une émission pré-enregistrée dont le montage a été réalisé par Xavier Lecomte, que je salue au passage et remercie très chaleureusement. Alors cette émission est consacrée à Henri Dougier, éditeur et fondateur des éditions Autrement. Il vient de publier ses mémoires aux éditions Atelier Henri Dougier et il m'a semblé qu'une telle aventure éditoriale, qu'un tel parcours de vie pouvait intéresser tout lecteur en herbe. L'épopée des éditions Autrement est née en 1975 d'une revue trimestrielle et thématique qui recueillait des témoignages, des histoires singulières de gens qui font bouger le quotidien. Elle avait alors, nous dit-on, pour principal objectif de donner la parole à tous ceux qui lancent chaque jour, partout dans le monde, des révolutions minuscules. Et c'est cette initiative-là d'émancipation de la pensée par la parole des uns ou des autres que je vous laisse le soin de redécouvrir. Henri Dougier, bonjour. Vous êtes, je suis ici chez vous, donc dans votre atelier d'écriture, d'éditeur. C'est un lieu qui a un bel état d'esprit. D'ailleurs, votre maison d'édition Henri Dougier s'appelle Atelier Henri Dougier. Ce n'est pas un hasard, je suppose.
C'est pas un hasard. Ben, en effet, il y a là où je suis, qui est une sorte d'atelier où il y a des bouquins et des gravures, des tableaux, des dessins, il y a un peu tout. Bon, bref. Plusieurs expressions artistiques. Et puis, à côté, c'est un coup de chance, à 3 minutes ou 2 minutes de chez moi, une petite boutique que j'ai découvert un peu par hasard. On s'est installé. Et atelier, parce que, au fond, parce qu'on est toujours dans l'expérimentation. On a toujours été au niveau du livre, au niveau, par exemple, on en parlera, je crois, tout à l'heure, une collection de journaux, de 16 pages, imprimés évidemment, en couleur. Et c'était une collection que j'adore, qui dure toujours, que l'on faisait avec des gamins de 15 ans, 16 ans, un peu plus, dans des banlieues, des gens qu'on n'entend jamais, et à qui on disait, racontez-nous votre vie dans un lycée, une association, racontez-nous ce que vous avez envie de dire de votre vie, positif ou négatif. Et conclusion, c'était en permanence positif, parce que on avait craint que ce soit un déluge de critiques. Pas du tout, ils étaient tellement contents qu'on leur donne la parole, qu'on leur dise c'est vous qui allez faire les dessins, c'est vous qui allez faire les photographies, c'est votre œuvre, c'est vous. Nous, on va imprimer, on va mettre en scène, mettre en page, c'est tout. Voilà. Donc ouais, atelier. Donc tout l'esprit de cette boîte. C'est d'abord petite taille, vous verrez qu'on n'est pas très nombreux. C'est un petit atelier que je continue après une aventure plus importante qui était Autrement, c'est sûr, que je continue de façon beaucoup plus mesurée et modérée. Les temps ont changé, on est bien d'accord. Mais j'aime bien le mot atelier, ça donne le côté, je dirais, modeste, en fin de
modeste. Alors, vous publiez ces jours-ci, Henri Dougier, La quête perdue d'un éditeur impatient. C'est un récit amoureux du vivant et du beau, ça c'est le sous-titre on pourrait dire, et ça vient de paraître d'ailleurs dans votre maison d'édition Atelier Henri Dougier. Alors ma première question, c'est vrai que c'est graphique en fait, quand j'ai vu la couverture de votre livre, il y a ce que je considère comme un sous-titre, amoureux du vivant et du beau, mais qui est rayé. Donc il y a un jeu entre deux couleurs d'ailleurs de police, une police beaucoup plus claire et une police beaucoup plus sombre. Alors je vois un petit peu que vous m'expliquiez cette astuce, ce clin d'œil.
En fait, c'est la création, pas de moi d'ailleurs, mais d'un graphiste, un copain. Bon. Et je lui avais dit, on fait une collection qui va s'appeler Une vie, une voix, VOX. Bon. On en a des gens qui sont inconnus au bataillon, qui sont agriculteurs, amoureux du bois, charpentiers, cheminotes, SNCF, que sais-je. Qu'elles racontent, que ces gens racontent leur vie, leur trajectoire, avec leurs mots. Et on était surpris, là encore, comme avec le projet des des journaux de 16 pages avec des gamins, surpris par la qualité des textes, la qualité, je raconterai plus tard les projets en cours, vraiment étonnant, la qualité d'expression de certaines personnes complètement inconnues. Alors, la maquette, le garçon m'a dit, je vais te faire une maquette qui ne ressemble pas aux autres, il n'y aura pas d'image en couverture, il n'y aura pas le gros titre comme ça en une ligne ou deux lignes. Je vais, on va faire un titre un peu long. Bon, je vous montrerai peut-être les autres qui ressemblent à celui-là. Et c'est une phrase. On va prendre une phrase qui décrit à la fois une personne, un métier, parfois un lieu ou un environnement donné, mais quand même qui dit quelque chose de l'individu qui s'exprime à l'intérieur. Donc le mot éditeur là. Bon, alors.
En fait, il y a
deux titres dans le titre. Il y a le titre qui peut passer comme titre sur la tranche et sur le dos de la couverture, où là, on ne pourrait pas mettre la phrase en entier, ce serait infaisable. Donc, il fallait que je choisisse dans le grand titre un titre opérationnel, qui était en fait La quête est perdue, parce que c'est en effet complètement moi, d'un éditeur, c'est moi aussi, impatient, c'est malheureusement moi aussi. Ça, c'est le défaut et la qualité, mais le défaut aussi. Et puis ensuite, bon, amoureux du beau et du vivant, et c'est évidemment, c'est le cœur du dispositif de tout ce que je fais depuis 50 ans, ou presque, bon. Mais ça reste sur la couverture, mais ce n'est pas dans le titre, voilà. Donc c'est un jeu graphique, tout simplement un jeu graphique.
Un jeu graphique, et on peut noter aussi, je dirais que c'est deux temps en fait. Il y a à la fois le temps de l'action, et puis le temps de la contemplation, le vivant et le beau.
Absolument, il y a les deux temps, tout à fait. Vous voulez que je vous montre des autres images de cette collection ?
Tout à l'heure, ouais. Parce qu'on va parler de votre livre, Henri Dougier. Alors, c'est un livre qui est dédié à vos enfants, car dites-vous, votre passion et votre métier d'éditeur boulimique ont trop souvent écarté de votre trajectoire et de votre histoire vos enfants, vos proches. Mais à vous lire, on sent vraiment que la passion de l'édition a été la plus forte. Et c'est ce qui vous maintient en forme, en vie. On sent vraiment que vous êtes dans l'action, mais surtout dans la découverte, dans l'invention, dans le fait de découvrir, toujours d'être... Est-ce que vous considérez comme un pionnier, un butineur de livres, un passeur, un lanceur d'alerte, un aventurier, que sais-je ? On sent en tous les cas que vous aimez, Henri Dougier, ce côté expérimental,
oui, ça c'est sûr, oui,
de l'édition.
Alors... Positivement, je me sens un gamin. Non, mais c'est drôle. J'ai eu du mal à me prendre au sérieux. J'espère n'être jamais pris au sérieux. C'est pas mon tempérament de base. Bon. Ça, c'est le côté que j'aime bien en moi, disons, ouvert à d'autres voies, ouvert à d'autres expériences. J'ai pas de jugement carré. Alors, ça, c'est le côté, disons, gamin qui expérimente, qui s'enthousiasme très vite, qui décide très vite, parfois trop vite, d'où le côté impatient. Si j'aime un texte, je le lis tout de suite et je téléphone à la personne dans l'heure. Même si après, un ou deux jours après, je me dis merde, bon, c'est bien, je suis sûr de moi, de mon jugement, mais maintenant, il faut quand même réaliser le livre, il faut le programmer, etc., etc. Bon. Alors ça, c'est le côté ambigu, disons, de mon comportement.
Et donc, vous aimez toujours ce qui est expérimental, innovant.
Alors, la beauté, c'est vrai, la beauté, c'est essentiel, quoi, c'est essentiel, mais la beauté de tout, c'est la beauté de vous savez que parfois, je prends le train comme tout le monde, et dans les gares, il y a souvent un piano. Et parfois, il y a des gens qui chantent. Bon, alors, je suis plus sensible d'ailleurs moi au chant, peut-être qu'à l'exercice, disons, d'un instrument de musique. Et ça, c'est fantastique. Quand tout d'un coup, voilà, c'est ce fragment, ce petit fragment de truc qui se passe comme ça, qui est quelques minutes, mais ça, on gagne une journée, enfin... On rêve tout haut. Bon. Et c'est ça, je suis en quête de tout, en fin de compte. C'est aussi bien quelqu'un que je rencontre, que je verrai dans la rue, qu'un film, qu'un tableau. On parlera de la collection sur la peinture après. Mais c'est vrai que je recherche toujours cet élément qui va me donner envie de vivre. Mmh. Au fond, je doute beaucoup de moi. Je suis pas toujours gai au fond de la vie et de l'environnement, qui est par moments, surtout en ce moment, extrêmement difficile. Et donc, ces fragments, ces petits fragments de beauté qui ont toutes les formes de la Terre, je m'évertue, disons, à ne pas les oublier, à les saisir, et surtout à encourager tout le monde à les saisir eux aussi, en disant, attendez, vous êtes entouré de choses.
Est-ce que vous êtes un lanceur d'alerte? Est-ce que vous l'avez été?
Alors,
Henri Douget, parce qu'avec la revue Autrement, qui est devenue la maison d'édition Autrement, pour, je le dis pour nos auditeurs, hein, est-ce qu'on peut vous à l'époque, vous avez été, par les thèmes que vous avez abordés, par les remises en question d'une époque aussi, vous avez quand même été un lanceur d'alerte, quelqu'un qui réunit, en fait, on a l'impression que votre métier d'éditeur et de passeur, c'est de réunir des points de convergence.
Alors, c'est vrai, en même temps, je ne me sens pas un militant. Oui, je veux dire, on pourrait me critiquer, des gens de gauche me critiquaient à l'époque, les gens qui étaient au PS ou qui étaient même au CRS, par exemple, du côté Chevènement, ils trouvaient que j'étais un peu du côté du beau, mais du côté un peu bourgeois quand même. Bon, ben, ouais. Je suis un bourgeois, hein, faut pas rêver, bon, d'accord, où j'habite. Donc, je ne suis pas un militant. Est-ce que je suis un lanceur d'alerte? Je ne sais pas, je suis un partage. Je veux partager des émotions. Ça, c'est sûr. Et partager des émotions. Bon, l'Ukraine, bah, évidemment, bon, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Partager des émotions sur beaucoup de personnes incompris ou de gens qu'on n'écoute pas ou qu'on ignore. Bon. Donc, oui, en effet, là, je revendique un aspect de partage et positif, mais pas de dénonciateur. Enfin, je n'ai jamais dénoncé. Alors, il y a les bonnes dénonciations, puis celles qui sont un peu de délation, qui sont assez autre chose. Mais j'ai pas non plus été vraiment, j'ai pas dénoncé, j'ai pas pris parti contre, je ne sais pas, le Total Énergie ou Bolloré. Mais par contre, tous les sujets qu'on abordait, directement ou indirectement, remettaient en cause, bien entendu, le système, évidemment. Mais il n'y avait pas un discours construit.
Alors, c'est un récit, c'est le récit de votre vie, hein, La quête éperdue d'un éditeur impatient, amoureux du vivant et du beau, Henri Douget. C'est un récit. Alors, vous parlez de votre enfance, de vos parents. Et vous êtes originaire des Pays Basques, si j'ai bien compris. Il y a aussi un peu... La famille était un peu en Espagne, voilà. Et d'ailleurs, je crois que dans votre famille, il y avait une usine de miroirs. Alors moi, ça me fait vraiment penser aussi à votre métier, puisque finalement, autrement, il y avait tous les prismes. Il y avait un jeu de reflets.
Absolument. Il y a deux usines, ce qui est drôle. Une qui est à part qui était petite, à Saint-Sébastien, en Espagne, qui appartenait à mon grand-père du côté de mon père. Henri, qui s'appelait Henri, avec un I.
Ah oui, vous, c'est avec un Y.
Oui, moi, j'ai mis un Y, évidemment, pour changer. Voilà. Sinon, il ouvrait mes lettres. Alors, il y avait une usine de miroirs, en effet, à Saint-Sébastien. Et alors, du côté, c'est amusant, de mon grand-père, du côté de ma mère, encore plus proche de l'édition, il y avait une usine qui fabriquait, je crois que ça s'appelait des feutres techniques pour les papeteries. Quand vous avez les machines à papier qui sont colossales, comme ça, qui font peut-être 100 mètres, de, je ne sais pas 100 mètres, mais 50 mètres de long, certainement, avec d'énormes rouleaux, arrive la pâte à papier d'un côté, elle va passer sur un rouleau, puis deux, puis trois, elle va s'assécher ou s'humidifier, et au bout du compte, va sortir le papier que l'on veut avoir en main. Et pour soutenir ce papier qui va se désagglomérer au fur et à mesure et roulant autour de ces gros cylindres, il y a des feutres techniques et on fabriquait ça.
Alors c'est faux, ça rejoint.
Oui, ça rejoint complètement. Alors je faisais pas le lien, bien entendu, mais je me souviens parfaitement bien, c'était à Saint-Junien, Haute-Vienne, qui est la patrie du communisme. D'ailleurs, c'est toujours été une municipalité communiste, avec quand même des bourgeois, comme mon grand-père ou les autres, bon, qui avaient une usine, mais qui était un bon patron, un type bien, il avait des valeurs morales très fortes, il aimait bien tout son staff, c'était une petite usine, c'était pas gros. Mais c'était en effet, pour proche du papier, c'est à mourir de rire. Et de ce côté, les miroirs. Donc, en effet, j'ai pas fait le lien entre le miroir et le papier, mais c'est vrai qu'il y a un lien.
Et il y a un lien, puis Gutenberg était un fabricant de miroirs.
Et puis l'Espagne, que j'adore. Ça, je suis beaucoup. Ouais. J'adore. Et j'aime beaucoup les Espagnols. Je trouve qu'on a toujours, en France, regardé les Espagnols avec une certaine condescendance. On les a un peu maltraités, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs. En place. C'était un peu, vous savez, à l'époque où il y avait les bonnes espagnoles. Après, c'était les portugais, les criadas. Bon. Mm. Et c'était un peu ça. Les espagnols nous en veulent en disant vous êtes une prétention. Bon, on est c'est un peu prétentieux, nous, français. On le sait. Bon. Mais vis-à-vis de l'Espagne, c'est le cas. Et moi, j'adorais les espagnols. J'adore les espagnols. J'adore l'ambiance. J'adore leur voix, le langage.
Bien sûr.
Te digo, hijo.
Oui, mais vous avez la patience espagnole.
Et c'est formidable. Et comme je mentionne les tapas, moi j'adore ce pays. Il me touche. Quand je vais en Espagne, je me sens chez moi.
Ouais. Alors, votre père, vous dites au sujet de votre père, je me nourrissais du manque d'assurance de mon père et j'allais dessiner ma trajectoire avec le sentiment insaisissable mais tenace d'une revanche à prendre. Donc, vous décrivez un milieu qui. Vous allez prendre votre place petit à petit, vous cherchez. On pourrait dire que c'est presque un roman d'apprentissage, votre récit.
Alors, au fond, ma mère. Était intellectuelle, je ne sais pas. Elle était en tout cas très littéraire, lisait beaucoup, elle faisait que ça. Elle faisait que ça à l'époque, mère au foyer, elle n'avait pas de job, mais elle lisait énormément et elle m'a certainement influencé, surtout les bouquins d'histoire, beaucoup ça. Mon père ne lisait pas du tout. Lui, c'était un homme du terrain, c'était un homme de sport, il jouait à la chistera, comme l'espagnol, il nageait très bien, il chantait très bien, il était un homme, c'était un physique, un charnel, ma mère plutôt le cérébral. Mm. Alors il y avait d'un côté, il y avait ce mélange, et je m'en veux, et je mets dans le bouquin souvent, je m'en veux, mais on s'en veut toujours trop tard, d'avoir un peu perdu mon père, je n'ai pas respecté mon père. Je l'ai pas respecté.
Voilà.
Alors j'avais un peu peur de ma mère, qui était pas commode, qui était même assez froide en fin de compte. Il n'y a pas de câlin, hein, non. Il n'y a pas de câlin. Je n'ai pas de souvenance de câlin, jamais. Bon, ça j'en voulais. Mais elle m'apportait quelque chose. Je l'admirais. J'avais de l'admiration pour ma mère, pour cette culture, sa curiosité intellectuelle. Elle me disait si tu voyages, Henri, il faut que tu fasses. Riquet, parce que mon père Riquet à l'époque, voilà, très longtemps c'était Riquet.
Il y avait Riquet à la houppe. Hein, dans
vous savez qu'en espagnol, mon père s'appelait Riquito.
Ah oui.
Donc on n'est pas très loin de Riquet. Bref, donc Riquet, il faut que tu fasses un journal de bord, un journal de voyage. Et elle m'encourageait dès que j'ai eu, je sais pas, de 12-13 ans, je commençais à voyager un peu seul. Elle me disait il faut que tu traces quelque chose. C'était quand même un très bon message.
Ah bah oui.
Alors que
tracé
papa
pour un éditeur
était du côté plus classique. Il ne lisait pas. Il avait fait HEC. Il voulait que je fasse HEC. Alors j'ai presque fait HEC. Puis j'ai fait des secs. Bon, je suis passé à côté de lui. Il est passé un peu à côté de moi, mais je suis passé à côté de lui.
Mais bon, alors vous avez été aussi élevé chez les jésuites. Et vous rappelez cette parabole des 5 talents. Si tu as reçu quelque chose en héritage de ta famille ou de l'école, il faut le rendre à d'autres.
Oui, ça c'est très fort, ça.
Et ça,
c'est très fort. Parce que les jésuites, bon, j'ai pas...
Non, oui.
Comme ça, bon, c'est pas très... C'est pas religieux,
non,
hein, c'est pas du tout.
Tout. Non,
ils n'insistaient pas là-dessus, d'ailleurs.
Non, pas
ils
du
préfèrent
tout.
Que le type ait une bonne note au bac ou passe ou soit à normal sup.
Mais par contre, vous avez retenu ça.
Mais il faut rendre compte. Il faut rendre des comptes. Et c'est vrai que quand on est bourgeois, qu'on a eu la chance d'être dans un collège comme Franklin, qu'après on fait des études, j'ai toujours été au fond des lieux qui sont à droite, tout le long de les jésuites, le lycée Carnot en préparation HEC et SEC, l'ESSEC, l'INSEAD, n'en parlons pas, tout ça.
Sauf votre création d'édition, finalement.
Sauf, voilà.
En fait, c'est là.
J'ai changé à ce moment-là. J'ai changé. Mais toute ma formation jusque-là était, comme je dirais, entre guillemets,
privilégiée.
Au centre droit. Au centre droit. Je ne sais même pas ce que mes parents, je pense, devaient voter. Oui, je pense entre droite, c'était plutôt... Mais c'est généreux, c'est ça que j'aime bien. C'est mon père était un type qui adorait ATD, Carmonde, il adorait le père Wazinski, toute la bande, bon, tous les gens généreux de l'époque. Et il voyait un type dans la rue, il lui donnait de l'argent, bien entendu, il l'invitait à déjeuner. Mm. Mais je n'ai pas fait ça, moi. Moi, je suis pas capable de ça.
Mais vous avez lui, entendu... Oui. Ouais. Alors après, vous êtes passé à Condorcet et vous avez eu pour professeur Roger Icor.
Ah oui, j'ai oublié complètement.
Alors, il n'était pas bon prof du tout. Hein. Pas du tout, ça ne vous a pas marqué.
Ce qui m'a marqué, c'est quand je suis revenu, parce que j'avais raté le bac, je suis revenu en philo à Franklin. Là, j'ai eu un très bon prof, le père Thomas, qui était un jeune, mais très bon, très très bon. Et là, je suis devenu... bon, j'étais pas mauvais en français, mais là, je suis devenu carrément bon. J'étais dans les premiers, heureusement, parce que tous les examens que j'ai subis après, soit pour préparation à HEC, soit pour l'ESSEC ou d'autres, mes notes dans les domaines scientifiques étaient affligeantes. Je mentionne là la note brillante que j'ai eue au concours d'HEC en maths, j'ai eu zéro. Bon, c'est quand même c'est une belle image, zéro. Et la deuxième année, par contre, j'avais 17 en français. Ça, c'est quand même mieux.
Ça, c'est mieux.
Mais l'année après, j'ai eu 1 en maths. Et j'avais fait quand même des progrès. Comme 0, c'est mieux.
C'est mieux.
J'étais nul.
C'est pour ça que je parle de récits d'apprentissage, de romans d'apprentissage vous concernant.
C'est parce
que
ça, oui.
Parce que des jeunes qui peuvent vous lire, ça peut déclencher aussi des vocations. Ils se disent, ils se cherchent encore. Alors, vous faites votre service militaire, je crois, à Saumur. Puis, il y a la guerre d'Algérie. Vous vous retrouvez... Et alors, vous faites la connaissance de Christophe Izard. Alors, ça, c'est le père de Casimir.
Oui, le père de Casimir.
Et vous dites, d'ailleurs, Casimir, c'est lui.
Casimir, c'est lui. Absolument. J'avais pas fait ce qu'on appelle, vous savez, à l'époque... Les étudiants, c'était l'époque du service militaire.
Ouais, c'est ça.
Ils faisaient la préparation militaire supérieure, ça s'appelle PMS. Très bien. Ce qui veut dire que pendant une année d'études, ils allaient tous les mois passer une journée, je crois, en entraînement quelconque, etc. Très bien. Mmh. Moi, ça m'emmerdait, je voulais pas le faire, je l'ai pas fait. Ce qui fait que quand je suis appelé sur les drapeaux, une fois arrivé à l'INSEAD qui pour démarrer une année qui s'est avérée passionnante, mais que j'ai interrompu pendant 2 ans et demi de service, j'ai été récupéré par l'armée et j'étais donc condamné à être simple soldat. On m'envoie à Trier en allemand, donc à Trier en Allemagne, pour faire mon entraînement de conducteur de char. Mm-hmm. Tombé pour faire, mais bref, je fais ça, je m'aperçois que si je ne fais pas un effort particulier, je vais rester simple soldat. Là, je vais m'emmerder. Je n'ai pas très envie de m'emmerder. Ben, c'est pas mon truc. Je suis un peu impatient, là, encore. Et je me dis, oh non, là, il faut que je sois bon. Donc, je suis bon en sport, bon tout ce qu'il fallait faire. Je sors dans les premiers de ce séjour de 6 mois à Trèves. Et je suis envoyé à Saumur, une école d'officiers. Saumur, j'y reste, je crois, c'est 4 mois, 5 mois. C'était le printemps, c'était un temps extraordinaire. Bon, et là, c'était un entraînement tous azimuts. Et là, on devait choisir un régiment. Et c'est là où il y a une rupture aussi en moi. Parce que je vois dans ces régiments où je pouvais choisir, j'étais bien placé. Bon, parce que là encore, j'étais pas trop mauvais physiquement dans les exercices et autres. Bon, très bien. Et je vois apparaître le mot « légion étrangère ». Et pour moi, c'était un peu... un mythe. Enfin, je me dis que qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je me renseigne. On me dit, oui, c'est un peu un truc d'élite, mais ils recrutent pas du tout d'officiers de réserve, ils occupent que des soldats professionnels, des officiers professionnels. Sauf, à cause de la guerre d'Algérie, ils ont besoin de temps en temps d'officiers en plus. Bon. Et ils prennent un, de temps en temps, très peu, ou en infanterie ou à la cavalerie. Mmh. Cavalerie, c'est les chars. Ils en prennent un ou deux. Et là, il y avait une place que j'ai prise.
Et oui, alors là, vous êtes retrouvé...
Alors là, je me suis retrouvé face à un monde... C'est assez étonnant, je veux dire. Parce que je me retrouve, donc, avec l'uniforme... Tout est en vert, hein, les cravates vertes, petit béret vert, etc. C'est le vert de la Légion. Il n'y a qu'eux qui ont ce droit. Les paras, c'est rouge. Bon, très bien, je me retrouve à Sidi Bel Abbès, qui est le base arrière de la Légion... On me demande d'entraîner une équipe de sous-officiers qui avait 10 ans de plus que moi, et beaucoup plus doué que moi, mais bref, je me débrouille. Je suis ensuite envoyé dans un régiment qui était le premier régiment étranger de cavalerie, dans les Aurès. Là, je suis resté un an et demi. Il y a eu le putsch, entre-temps.
Ah oui, alors vous écrivez, mes souvenirs du putsch, c'est Fabrice à Waterloo, je n'ai rien vu, rien su, rien entendu, et il y avait juste des civils armés jusqu'aux dents qui arrêtaient de temps à autre, de temps en temps, sans raison, d'autres civils, et les amenaient dans nos bureaux.
Absolument. Là, c'était hallucinant, parce que, autant je voyais le régiment dans lequel j'étais, la cavalerie est un régiment, c'est un corps, disons, un peu différent, disons. Il y a un côté snob, mais positivement aussi, il y a beaucoup, par exemple, énormément d'officiers aristocrates, mais beaucoup. Bon, et dans ce régiment en particulier, il y avait au moins 7 sur 10, bon, qui étaient, bref, qui ont des valeurs. Je n'ai jamais vu, et ça personne ne peut me croire, je n'ai jamais vu une seule violence exercée par moi-même, mes soldats autour de moi, le régiment de Légion dans lequel j'étais, et dans une région dure comme les Aurès, qui est comme un montagneux avec beaucoup de guet-apens possibles, disons, jamais j'ai vu de violence gratuite. Jamais j'ai vu de torture, jamais. Et quand je lis la presse en ce moment et que je vois ces témoignages qui arrivent de jeunes du contingent qui ont mal digéré leur période des années 54 à 62, bon, moi je suis parti en 62, donc moi j'ai vécu 59-62, je suis étonné moi-même de témoigner en disant mais je n'ai rien vu de dégueulasse.
Mais en fait, Henri Douget, c'est qu'on a l'impression, à vous lire, que vous êtes aussi vraiment le jeune homme, Fabrice, enfin, qui est dans la lecture aussi, qui à la fois dans la vie, qui est encore, parce que après vous faites des études de commerce, et on se dit bon voilà, et c'est vraiment l'apprentissage, c'est-à-dire c'est vraiment comme dans les romans de Stendhal, enfin je sais pas, il y a un côté comme ça, où d'ailleurs vous le racontez très bien, ça, c'est-à-dire cette le temps que vous avez mis à vous trouver finalement.
C'est inouï, c'est que ce que je retiens de la Légion, c'est que je reviens au beau et à l'action. Je vois des gens humains de très bonne qualité autour de moi, officiers ou soldats, de bonne qualité, des qualités d'empathie entre eux, de chant. C'est mine de rien, c'est rien, mais le chant c'est très important. Très important. Je me souviens d'une Algérie d'une beauté incroyable. On a loupé. C'est une honte. Ce pays est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai rarement vu un pays aussi beau, de montagne, de brutalité comme ça. Je ne retiens, c'est invraisemblable, de cette époque militaire en pleine guerre d'Algérie, je ne retiens en fin de compte, au fond de mon cœur, que du beau. Incroyable.
Tant mieux. Tant mieux. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis nous poursuivons notre conversation. Henri Dougier, alors nous sommes toujours dans votre atelier d'écriture et de création. Nous parlons de La quête éperdue d'un éditeur impatient, amoureux du vivant et du beau, qui vient de paraître aux ateliers Henri Dougier. Alors c'est vrai que vous avez commencé, bon, on a parlé de votre enfance, service militaire, etc. Puis vous rentrez dans la vie active, comme vous êtes quelqu'un de très entreprenant, on peut vous qualifier d'entrepreneur. Hein, vous
oui, c'est vrai.
Vous avez ce côté-là, vous aimez créer des...
Oui, mais pas tout de suite, parce que... Si ça a été les débats que j'organisais à l'INSEAD avec que des gens de gauche, qui étaient dans un milieu de droite. Alors, j'étais à mourir de rire parce qu'ils ne se déplaçaient que pour écouter Simon Chabert, ou Bloch-Lenné, qui était un type formidable d'ailleurs, qui était le patron de la Caisse des dépôts, mais ils ne se dérangeaient pas pour Baudrillard, ou pour Alain Touraine, ou pour les autres, pas du tout. Donc, ça, mon premier esquisse de dire, bon, je ne suis pas dans le système. Au fond, j'ai quand même été dans le système chez les GES, c'est sûr, obligatoire. À l'ESSEC, j'étais pas vraiment dans le système parce que j'étais pas très présent, pour être très honnête. Moi, j'avais beaucoup d'associations d'étudiants. OK. Et ensuite, bon, le service militaire qui était un peu à part aussi, un peu comme itinéraire. Et ensuite, à l'INSEAD, j'étais dans un milieu de gens très international, c'est complètement aux trois quarts, mais quand même plutôt à droite, c'est plutôt des gens réactionnaires. Bon, et donc moi j'avais commencé déjà à faire venir des témoins de la gauche pour dire écoutez ce discours, écoutez d'autres discours, d'autres regards sur la société. Ensuite, je sors de l'INSEAD et je me dis il faut que je fasse une revue. Et je crée une revue en anglais qui s'appelait European Business, et qui était, alors là, plutôt de management, bon, mais quand même un peu différente, là encore. Je faisais un truc un peu à part, tout seul, pratiquement. Ma sœur m'aidait beaucoup, elle est adorable, elle m'aidait énormément. Et ça, c'était un peu les mouvements d'indépendance ou d'autonomie, disons. Ensuite, je rentre, en sortant de l'INSEA, je rentre à la Shell, où j'aimais bien les valeurs de la Shell. Les gens que j'ai rencontrés étaient des gens de bonne qualité, sur le plan, à tout point de vue, humain, intellectuel, de bonne qualité. Mais je m'ennuyais. Et je sentais que j'étais pas... Je pense qu'ils s'étaient un peu trompés sur moi, parce que mon CV pouvait faire illusion. Quand vous dites à quelqu'un, voilà, il a été chez les GES, il a été à l'ESSEC, il a été Légion étrangère, il a été ceci, cela, ah, je dis, merde, c'est un type bien. Mais il se trompait. J'étais pas un type bien, j'étais un type désobéissant. Mais ça n'apparaissait pas dans le CV. Et moi, je me rendais compte que j'étais désobéissant, au fond, que je voulais avoir ma démarche à moi. Et c'est donc au moment où je quitte, la Shell et ensuite le Savon Chabert.
Donc vous avez travaillé à l'expansion, c'est ça ?
À l'expansion.
D'ailleurs, vous dites, j'en ai gardé peu de souvenirs, sans doute parce que je ne m'y sentais pas à l'aise. Honnêtement, on ne peut pas dire que j'y ai brillé.
Non, c'est vrai, je n'ai pas été très bon. Et je le disais à Jean-Louis, qui lui était un type très, très bien, là aussi quand même très assez carré. Et je lui dis non, je ne me sens pas, au fond, j'aime pas être cadre quelque part. Au fond, voilà, je me découvre. J'ai découvert que j'étais, au fond, profondément désobéissant, que j'avais envie de faire mon truc à ma façon, avec ma musique, et plutôt rattraper ce que j'avais loupé en 68, parce que c'est un peu ça aussi. J'avais loupé complètement. Parce qu'en 68, j'étais à la Shell. Alors je voyais, c'était comme en Algérie, j'étais loin des réalités. En fin de compte, j'étais à la Shell, et mon rôle était de surveiller le fonctionnement des stations-service un peu partout dans la région parisienne, et de faire en sorte que la boîte fonctionne, et que la consommation fonctionne. Bon, mais moi j'écoutais les messages des uns et des autres, je dis, mais moi je suis beaucoup plus du côté des révoltés, c'est évident.
Mais alors vous avez créé ensuite vous avez repris la revue Preuve.
Après j'ai revu la revue.
Voilà, une revue de politique et d'économie créée par Raymond Aron.
Absolument.
Et dirigée par Gilles Anouilh, c'est ça.
Voilà. Un type très bien qui un jour m'a dit voilà, moi j'arrête. Est-ce que ça t'amuse de reprendre cette revue ? J'ai dit, évidemment, ça me donne European Business en anglais, je continue, mais c'est en anglais, c'est à part. Par contre, Preuve, ça n'a rien à voir. C'est une aura, c'est plus intellectuel, c'est plus français. Bon, parfait. Et je le fais pendant un an. Et je m'aperçois au bout d'un an que je ne pouvais pas redresser la barre d'une revue qui avait perdu un peu son cachet et sa force. Et je me dis, il faut que je crée quelque chose de neuf. En 73, je me mets au chômage. Et entre 73 et 74, ben, j'invente un truc que j'appelle un peu par hasard autrement, mais qui résumait bien
la différence. Autrement, oui, autrement.
Mais le flou aussi, on peut dire. Parce que c'est si flou, autrement, mais autrement quoi ?
Autrement dit, autrement vu.
Autrement dit, autrement, c'est quoi ? Et je leur dis, oui, bon, ben, autrement, c'est une autre façon d'aborder les problèmes, une autre façon de créer une revue qui est en même temps un livre qui est une revue, enfin, dans la forme et dans le fond, c'est un autrement comme ça. Je me
ça vous est
pas.
Venu, ça vous est venu naturellement, ce,
oui,
ce
c'est
titre.
Oui, c'est naturellement. Et j'ai créé tout de suite dans la foulée. Ça, ça a été très rapide. Et voilà, ça a été.
Et comment vous avez fait le passage, justement, vous l'expliquez dans votre livre, mais peut-être l'expliquer pour les auditeurs, ce passage de la revue. Mais je pense qu'à l'époque, ça se faisait couramment quand même dans l'édition, de la revue à l'édition. Voilà, l'édition de revue, puis après passer à l'édition, vraiment, là, l'édition.
Alors, il y avait quand même la grande revue, et qui est toujours, je pense, enfin, moins qu'autrefois, c'était Esprit. Bon, là, c'est quand même la référence. La référence absolue, que j'ai bien connue, toutes les équipes d'Esprit, on s'entendait bien, mais ils étaient quand même autre chose, hein, c'était autre chose. Ils étaient moins sur le terrain. Bon. Moi, mon but était de dire, je veux raconter une société en train de s'inventer, en fin de compte, toujours du côté plutôt des innovants. Un des moments que je peux insister maintenant, parce qu'il me tient à cœur, c'est que je me suis toujours dit, jamais j'ai eu de posture, ni d'officier, quand j'étais officier, ni de PDG, si j'étais PDG d'une petite boîte. Jamais je n'ai fait de carrière. C'est le mot m'indiffère. J'aime pas carrière. Parce que je vois des expériences. Ça, oui. Carrière, non. Et le moment fort, en dehors de la création, donc cette revue-livre, il existait des revues, genre Esprit, et j'imagine d'autres, mais il n'y avait pas de revue qui se transforme en livre. Et la chance était, on pouvait à la fois avoir des abonnés, et des ventes en librairie. On avait deux diffusions.
Avec un accès à l'autre, accessible. Enfin,
accessible. Tout à fait. Et avec un contenu où je voulais mêler tout le monde. Il ne s'agit pas de faire appel à des gens, à des grands, ou meilleurs philosophes, ou sinologues, ou autres du terrain. Faire appel à des gens qui avaient des choses à dire, en mélangeant les genres. Et toutes les collections, quelles qu'elles soient, il y en a plein. Il y en a trop. Il y a un tremplin, ça c'est mon côté boulimique et impatient, c'est clair. Mais ça a toujours été, je mélange des gens qui sont inconnus au bataillon, et d'autres qui le sont, mais je veux mélanger. Bon, ça c'était essentiel, et sans donner de leçons, mais justement, pour partager ses émotions, partager ses choses. Mais le moment fort, c'est le moment, je crois que c'est en 81, je pense, j'ai un peu oublié, c'est 80-81, je pense. Bon, bref, j'avais créé, ce que j'appelle les ateliers, vous voyez déjà le nom, d'octobre. Alors ça voulait dire
ça, c'est important.
Que chaque mois d'octobre, chaque année, pendant 3 jours, dans une ville de province, on réunissait des travailleurs sociaux, entre guillemets, qui s'occupaient ou des femmes battues, ou des immigrés, des prisonniers, de que sais-je, tout, des problèmes, des cas sociaux, et qui ne se connaissaient pas entre eux. Et je me disais, mais c'est pas possible, ils ne se connaissent pas entre eux. Non seulement ils ne se connaissent pas entre eux, mais ils ne savent pas gérer, au fond. Ils sont dépendants de l'argent de l'État. Ils sont en permanence, comme souvent les Français attendent toujours la main de l'État, au lieu de prendre en main. Et je me suis dit, il faut absolument que je puisse jouer un rôle, non seulement pour les connaître, pour les faire sans se connaître eux. Et j'ai donc réuni ces ateliers d'octobre, dans des villes comme Chambéry, La Rochelle, Lille, Paris, et puis j'oublie, 7-8 fois, pendant 3 jours, on réunissait une petite centaine, par atelier, des petits ateliers, etc., de travailleurs sociaux qui échangeaient leurs expériences, leurs tuyaux pour survivre, pour développer, etc. Bon, ça, c'était génial. Et un jour, je crois que c'est 81, c'est à Lille, c'est très bien, c'est à Lille. Mauroy était venu nous accueillir, c'est très bien de Mauroy, il fait son petit discours, devant la petite centaine de garçons qui étaient là, garçons et filles. Et puis moi, je prends la parole et j'ai une sorte d'intuition en disant, écoutez, il existe depuis 68 des boutiques, pas des ateliers, mais des boutiques. Des boutiques de droit, des boutiques de science,
ben oui.
Des boutiques de santé. Et à chaque fois, c'est des bénévoles qui viennent là pour aider des gens qui ont du mal à comprendre le langage de l'avocat ou du magistrat ou des autres, et ils interviennent pour aider les gens. Bon. Eh bien, on pourrait faire des boutiques de gestion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pose la question autour de moi, les gens me disent, oui, ce serait marrant, boutique de gestion, ça fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. À ce moment-là, j'en parle à Bruxelles. Je n'ai pas une idée de Bruxelles magnifique, parce que la bureaucratie était... Mais, quand même, à l'époque, dans cette bureaucratie, il y avait des poches très intéressante. Et il y avait le Fonds social européen. Et près du Fonds social européen, le FSE, il y avait une petite équipe de Français, d'Écossais et de Gallois. C'était marrant. Et qui prennent mon projet, qui disent, mais c'est génial, boutique de gestion, ça n'a jamais été fait. Même aux États, à New York ou ailleurs, il n'y a pas ça. Il y a d'autres choses, mais pas ça. Donc, on va t'aider. On va débloquer un budget qui te permettra de créer une boutique, peut-être d'autres, si tu peux, et de démarrer. Un an après, je recrutais une jeune femme qui, depuis, a fait son chemin, parce qu'elle a continué, elle, totalement, oui, depuis 20 ans, de s'occuper des boutiques de gestion. Deguet, Daniel Deguet. Donc, formidable. Bon vent à Daniel Deguet. Et donc, c'était fascinant, parce qu'on était dans les locaux d'autrement. Il y avait une pièce où on recevait, ben, elle recevait des gens qui avaient besoin de conseils au niveau comment créer une start-up, comment créer, je sais pas, que sais-je, enfin, tous les problèmes de gestion.
En fait, c'était faire le trait d'union.
C'était
de faire le trait d'union, votre...
Oui. Oui.
Entre un lecteur, un éditeur, un auteur, plusieurs auteurs, plusieurs... Vous dites d'ailleurs, il s'agissait de faire de l'édition différemment, de façon plus adaptée à une époque de mutation et plus encline à produire de l'initiative. Initiative, c'est un mot très important pour vous. Une des originalités de cette méthode fut de jouer de l'ambiguïté formelle de la revue livre. L'objet aurait pu mener à de la confusion, mais penser à de l'hésitation... Faire penser à de l'hésitation, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, c'est vraiment prendre l'initiative pour vous de pas prendre le lecteur par la main, mais de faire du lecteur aussi, que lui-même fasse l'autre partie du chemin.
Mon slogan, tout le temps, aujourd'hui, hier, après-demain, rêver, agir.
Ah ben voilà.
C'est ça, tout le temps. Et je me dis à moi la même chose. Si je rêve pas, je pourrais pas agir. Si j'agis sans rêver, c'est pas terrible. Il faut les deux.
C'est faut les deux. Le mot utopie pour vous ?
Et le mot utopie, absolument. Eh oui.
C'est
pas grandiose. C'est pas des petites choses. C'est par des gestes, c'est par des. Alors, encore une fois, je suis pas donneur de leçons, parce que je jamais. Mais donner envie. Je crois que c'est ça. Il me semble. Quand on a créé après les boutiques de gestion. Et après les ateliers d'octobre, bon, on a créé, mais ça a duré très peu de temps, ça a duré que 2 ans, les rencontres de jeunes créateurs.
Eh oui.
Ça, c'était très intéressant. C'était de réunir des tas de gens créateurs dans tous les domaines, dans des lieux où ils étaient acteurs. Alors, c'était avec le théâtre de la ville, avec plein de lieux, j'ai oublié.
Bon. Oui,
et on a fait une grande fête que je raconte. Bon,
alors, vous avez créé une trentaine de collections. Hein,
et alors là, les collections n'arrêtaient pas.
Entre 1975 et 2011, oui. C'est ça ? Une trentaine de collections, de tous les formats, d'ailleurs, avec des formats expérimentaux, des atlas.
Des atlas.
Ça, c'était important
on
aussi.
On est devenu, je fais un petit aparté, c'est à mourir de rire. Alors là, les atlas... On ne peut pas dire que je les ai inventés. Tout le reste, j'ai inventé. Les atlas, j'ai copié une initiative anglaise. Je rencontre un jour, est-ce que c'était à Londres, est-ce que c'était à la foire de Francfort, je ne sais plus, plutôt à Londres. Je rencontre un type, j'oublie son nom, très sympa, et ensuite une fille, très sympa également, différente, qui faisait des atlas. L'un, c'était des atlas plutôt historiques, et elle peut être d'actualité, économique, sociale, etc. Et en anglais, bien sûr. Et je vois ces atlas et je me dis, mais c'est très bien fait. Il n'y a rien d'équivalent en France. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Ce qui fait que j'ai commencé par traduire les premiers bouquins anglais, mm-hmm. plutôt les historiques, mm-hmm. l'Égypte ancienne, etc. Donc, il était très bien fait, bien traduit, donc parfait. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que peut-être qu'on était capable d'inventer nous-mêmes des atlas faits par des cartographes et des universitaires français. Ce qui fait que je fais mon petit tour de piste, je m'aperçois, mais vraiment complètement, qu'on avait une pépinière de géographes de grand talent, de cartographes également de grand talent, mais qu'on n'avait pas vu. On continue les atlas, j'augmente le rythme, à mon habitude, parce que je vous limite, j'augmente le rythme, et on devient, mettons il y a 20 ans, on devient, et aujourd'hui encore, je pense, on devient le plus, mourir de rire, le plus grand éditeur d'atlas, je dirais presque, au monde. cette petite boîte de rien, autrement, qui démarre sur un projet d'atlas en couleur, très, très bien fait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont marché. Et c'est des centaines, à mon avis, il y a eu au moins 200 atlas, de conçus, incroyable.
Vous avez même édité les premiers MOOC.
Ensuite, autre chose, ça c'est autre chose. Voilà, oui. Bon. Non, c'est sans fin. C'est sans fin.
Et un best-seller, vous avez eu Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman, Taylor, qui a été un best-seller.
Ça a été un best-seller. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand les gens me parlent d'autrement, souvent ils me disent « Ah ben oui, Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse, on a tous eu le bouquin entre les mains à un moment donné. Mmh. » Bon, et tu dois être fier. Je lui dis « Écoute, je suis content, mais je ne suis pas fier. J'ai rien inventé. J'ai reçu ce bouquin en manuscrit, publié en anglais, qui n'avait pas marché aux États-Unis, très bien, qui avait été écrit en 1936, bon, oublié. Je le lis, je le trouve très intéressant et surtout très étonnant, ouais. comme dénouement et comme écriture. Bon, très bien. Et pas plus que ça. Je ne suis pas dans l'émotion folle. Je n'ai pas un coup à faire. Ce qui fait que j'attends quelques mois, je le sors, et petit à petit, en effet, le retentissement, les premiers lecteurs, des gens connus aussi, qui sont refilés le bébé, si j'ose dire. Et donc, on est arrivé à 10 000, puis 50 000, puis 100 000, puis...
Oui, c'est...
Et puis, je crois qu'on n'est pas loin du million d'exemplaires, toutes éditions confondues, sur 15 ans. Ce qui est évidemment rare. Mais j'en suis pas fier. Je suis très content. Je suis beaucoup plus fier de ma trouvaille de l'auteur de Conrad.
Oui.
La traductrice.
Bah oui.
Alors là, il y a une émotion, je dirais, complète.
On peut la raconter tout de suite, d'ailleurs.
Et on la raconte tout de suite. C'est-à-dire que je suis un jour, un copain me raconte, me dit, voilà, près de Agen, bon, là-bas, un beau pays, on mange bien, une amie, Odette Lamolle, qui est prof d'anglais, à la retraite, qui est assez âgée, qui semble avoir traduit l'œuvre de Conrad. Bon. Je dis, ah oui, bah, où est-elle? Je l'appelle tout de suite, là encore impatient. Et deux jours après, j'étais à Agen. On commence par bien bouffer, parce que c'est très important, bien bouffer, j'adore ça. J'adore bien manger, c'est partout là-bas. Et elle me dit, alors, c'est moi qui suis ici, alors, Conrad, montrez-moi. Elle ouvre le coffre des mille et une nuits, et je vois des dizaines de manuscrits en frappe directe et en frappe carbone, attachés par des petites ficelles, toutes mignonnes, un petit trou comme ça sur le côté, et me dit voilà, tout est là, tout Conrad est là. Je lui dis attendez, c'est impensable, c'était et vous avez fait tout ça. Elle me dit oui, j'ai tout traduit, ça n'a pas été relu et j'en ai rien fait. Bon, écoutez, on va faire une chose, on va le confier à le meilleur expert possible qui a dirigé la Pléiade, Conrad, qui est un type merveilleux, et je vais lui demander son avis, je vais lui donner à lire 3-4 des romans, Lord G ou d'autres, et il va me dire son avis. Quelques semaines après, il me donne son avis, il me dit « Henri, c'est très bien traduit, il y a une liberté de ton qui fait plaisir. Elle a pris un peu de liberté, parce que les traducteurs sont quelquefois un peu coincés. Elle a pris de la liberté, elle a du tempérament, elle a de la vie, ça sent. Alors, là où elle s'est trompée, c'est les mots techniques de marine. Là, c'est pas bon. Donc là, il faut tout revoir sur le plan marine. Du session, on en parle beaucoup. Il faut faire très attention avec des mots très techniques, la voile, sur le marine à voile. Donc, il corrige tout ça, et je me dis, écoute, voilà, on va publier tout. Et on a publié tout, une vingtaine de bouquins de Conrad, bon, sur plusieurs années. Ça, c'est une émotion folle de rencontrer quelqu'un. Elle est heureuse, vous vous rendez compte, l'émotion de cette femme.
C'était l'œuvre d'une vie.
C'est ça, l'œuvre d'une vie. C'est l'œuvre d'une vie qui était là.
Elle avait quel âge, cette femme?
75 ans.
Ah oui.
C'est
ah
dingue.
Oui. Ah oui, donc vous avez vraiment trouvé la balle au trésor. Ah oui,
c'était... Ça c'est des moments très forts, quoi. Et là, j'étais très fier de tout le monde, de moi aussi, en passant quand même, d'avoir bien misé, mais plus que d'avoir un succès majeur qui serait, vous voyez, qui m'aurait échappé. Mmh. J'étais pas là pour faire un coup, c'est pas un autre truc. On n'a jamais fait de coup, en fin de compte.
Donc en fait, c'est une vraie rencontre.
C'est une vraie rencontre. On n'a jamais, par exemple, recherché des signatures. Et on me le reproche, encore aujourd'hui, bien sûr. Beaucoup de gens me disent, attends Henri, tu ne peux pas aujourd'hui séduire la presse si tu n'as pas un type qui est un peu reconnu, un écrivain ou un sociologue. Ah. Je dis, c'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Moi, je veux découvrir, ma collection, on en parlera après, ma collection de peinture, elle est faite avec des inconnus. Mais talentueux, ils ont beaucoup de talent, mais ils sont inconnus, ils sont pareils, voilà, point. Voilà. Ça me plaît.
Ouais, toujours le côté expérimental.
Le côté expérimental.
On va faire une pause musicale et nous revenons après à votre livre, Henri Douget. Henri Dougier, nous poursuivons le troisième volet de notre conversation sur la quête éperdue d'un éditeur impatient, amoureux du vivant et du beau, qui vient de paraître aux ateliers Henri Dougier. Donc un récit sur votre vie d'éditeur, votre vie tout court, votre vie d'aventurier du livre, on pourrait dire, Henri Dougier. Alors est-ce que vous vous sentez libertaire à votre façon? Parce que vous dites « j'ai toujours détesté marcher dans les clous ». Quand il était à la mode de porter une canadienne, j'avais un lot d'Anvers, et tant pis si c'était un marqueur social. Cela ne m'empêchait pas de rouler en Solex. Donc vous avez toujours aimé.
C'est drôle. Je ne provoquais pas vraiment, mais je me souviens de Julie, Serge Julie.
Bon. Oui.
Libération, on avait fait une rencontre. Je me souviens d'une rencontre avec lui. Le garçon qui dirigeait, un trou de mémoire, qui dirigeait Esprit à l'époque, Mongin. Mm. Les Mongins, et encore un autre. Et on avait un projet, bon, etc. Je crois que c'est vers 81, 82, dans ces eaux-là, qui n'a pas eu lieu. Et lui, il me critiquait, il dit « Ah, Dougier, c'est le Loden vert. » Et alors, c'est Loden, c'est vrai, c'est un marqueur. Le Loden, c'est un marqueur.
Oui.
Moi, je ne veux rien à foutre. Comment je vais trouver ce Loden? J'en sais rien, mais ça tenait chaud, c'était pas cher. Et avec mon Solex, c'est parfait. Mais j'aime pas trop marcher. Alors, mon fils, aujourd'hui, j'ai un fils qui est plus jeune, qui a 27 ans, et il me reproche beaucoup mon côté désobéissant. Et quand je traverse les rues avec lui, je marche en effet jamais dans les clous.
Jamais.
Et ça le rend fou de rage. Il me dit encore avant-hier, il me dit « Mais papa, t'es pas possible. »
Vous marche, êtes indiscipliné, Henri Dougier?
Attends le feu vert ou le feu rouge. Enfin, merde, fais quelque chose, ne fais pas ça. Et donc lui m'attend. M'attend et pendant moi je traverse. Oh, attention quand même, je regarde à gauche et à droite quand même. Mais c'est malgré moi, c'est drôle, hein, malgré moi, je ne veux pas du tout provoquer. Mais je ne veux pas être tenu.
Non, vous ne voulez pas être tenu.
Je veux pas être tenu.
Et souvent vous ne sentez pas votre place, peu déplacée.
Et ma vie matrimoniale, on est le reflet.
Oui.
Parce que j'ai quand même divorcé deux fois, et on ne peut pas dire que c'est la faute de l'autre. Non, c'est ma faute partagée, certainement, mais bien partagée par moi. Parce que je suis un peu insaisissable. Au fond, oui, c'est ça.
Ou toujours tenté par d'autres aventures.
Toujours tenté, et toujours. Alors, ce que je me reproche énormément, bon, c'est un peu. Ça revient à la conclusion de l'histoire, mais je me reproche, c'est que. Un, ma famille, je l'ai quand même mise de côté, mes enfants, je les adore. Côté, la priorité c'était ce que je faisais. Bon, c'est comme ça. Et sur le plan, je dirais, de tous mes choix de vie, ça a toujours été des choix où le projet passait en premier, mes amis et toutes mes relations amicales qui étaient nombreuses, mais étaient liées à une activité.
Oui, c'est ça.
Et si n'avais aucune activité, j'aurais peut-être aucun ami.
Et oui, c'est ça. Oui, donc tout est lié.
Je me suis quelque part un peu enfermé dans un système où je crée pour vivre et survivre. Ça, c'est certain, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de me sentir en action, sinon je meurs debout. Mais c'est au détriment, au détriment quand même de l'amour et de l'amitié. Ça, je me le reproche. Je me dis, tiens, les gens à qui je m'entends bien, c'est des gens avec qui je partage des projets et des émotions.
Mmh. Un peu là, comme bien. Conrad, la notion d'équipage. Conrad, c'est l'équipage.
C'est l'équipage.
C'est la traversée.
C'est fou. Et je m'en veux, parce que il y a des gens que j'ai dû décevoir, certainement, parce qu'ils s'attendaient à une amitié, au fond, libre de... Non, elle était liée à un projet.
Toujours. Alors vous dites, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai aucune idée à transmettre, je suis un passeur et médiateur. Cette double attitude me met en porte-à-faux entre presse et édition. Je suis plus entrepreneur et artiste funambule qu'éditeur proprement dit. Parce qu'à un moment donné, vous parlez de l'évolution de l'édition que vous avez vue. On parle plus de produits maintenant. Enfin,
non.
C'est clair. C'est pas du tout l'édition des années 70 que vous avez connue. 80, 70, maintenant c'est quand même des grands groupes. D'ailleurs, à un moment donné, je crois, vous parlez, vous sentez pas à votre place vraiment. Hein. Je crois que c'est en 79. En 79, Le Seuil prend donc en charge notre diffusion et j'entre à son comité éditorial aux côtés de Thibault, de Winock, de Julliard. Je m'y sens totalement déplacée. Parce que ce sont des pointures intellectuelles et que je suis étranger à leur culture. Mais pas que, on sent aussi que c'est aussi une autre vision de l'édition. Peut-être. Enfin,
Vous avez vu le tournant? Comment? Parce qu'après, comment avez-vous vécu ça? Avez-vous vécu finalement l'évolution du milieu de l'édition? Si toutefois il a évolué, mais comment voyez-vous ça? Comment avez-vous?
Alors bon, en effet, bon, j'arrive. L'essentiel autrement est réalisé en 2000, disons vers 2007-2010. J'ai fait quand même le tour de tout ce que je mets dans les conclusions, sur les collections ont été créées. Bon, il y en a trop. Mais bon, c'est bien. C'est une bonne qualité quand même. Je n'ai pas à rougir, voilà. Bon, je n'ai pas à rougir des choix qui ont été faits, jamais. Mais là, je me rends compte que ça va devenir de plus en plus dur. Le rapport, en effet, aux signatures, etc. Bon, pas un détail, ce qui n'est pas un détail. Dans l'œuvre de Crespin Taylor, ce fameux livre, L'inconnu à cette adresse, qui a fait tant de ventes, qui a attiré tout le monde, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Alors, j'ai publié un ou deux bouquins d'elle, qui étaient de bonne qualité, qui n'ont pas fait du tout le même score, mais qui ont quand même peut-être fait 10 000, 20 000. C'est énorme. Et puis, il y avait un bouquin que je lis d'elle, et je dis non, ça, je, non. Non, je ne m'y retrouve pas, je n'aime pas ce livre. Et je décide de ne pas le faire. Et Flammarion, quand il rachète ma boîte, le publie. C'est pas les mêmes. Eux, ils jouaient, passer à côté d'un Crespin Taylor, c'est une connerie. Ne passe pas à côté. Je dis, mais non, mais moi, je veux croire à ce que je fais. Je suis redevable à mes lecteurs et à moi, surtout, en fin de compte, de ce que je sors. Il faut que je sois admiratif de ce qui est sorti. De la beauté, de la maquette, le contenu.
Vous aimez vous surprendre?
J'aime me surprendre. Bon, toutes les nouvelles collections, par exemple, la dernière, j'anticipe, qui s'appelle « Autobiographie d'un mythe ». Alors ça, c'est marrant comme idée. On s'amuse, on crée la collection sur la peinture. Donc, on va dire un mot qui s'appelle, en effet, le roman d'un chef-d'œuvre. On parlera
ça, c'est aux éditions Henri Dougier. Atelier
Henri Dougier. Et je me dis, tiens, il y a les mythes. On parle beaucoup des mythes, la mythologie grecque, la Bible. Bon, ça serait peut-être amusant de faire... de demander à des auteurs, romanciers, de s'incarner dans une figure mythique et de raconter la vie tragique de ces figures mythiques, souvent tragiques, de la raconter à la première personne. Moi, Œdipe. Moi, Vénus. Moi, Ève. Moi, Satan, etc. Je demande à des auteurs, encore une fois, pas connus. Pas les gens, non. Les gens que je connais, qui sont des amis. Bon, je dis, est-ce que ça m'amuse? Oui, ça m'amuse. Ils sont pas idiots, évidemment. C'est comme des gens qui ont une culture. Ils travaillent, on sort, là, ces bouquins qui sont magnifiques. Parce que, du coup, il y a une émotion intense d'écouter Œdipe qui raconte sa malédiction. On peut le lire de loin, en disant, bon, on vous raconte le bon. C'est très bien, mais quand c'est lui qui dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir tué mon père, ce n'est pas pensable, ou épouser ma mère. Bon, mais on est là, on est au bord des larmes, parce que c'est fort. Et ensuite, il est coupé d'images. Et toute la peinture intervient.
Alors, en fait, Henri Dougier, vous aimez bien... Voilà, c'est ça. L'image qui me vient à l'esprit, c'est que vous aimez bien distribuer des cartes. Vous êtes comme un joueur de cartes, ou distribuer des cartes à des auteurs.
Oui, c'est tout à fait.
À lui de jouer.
À lui de jouer.
Avec une thématique.
Tout à fait.
Avec une thématique, c'est le mythe, c'est l'art, c'est le social aussi. Mettons,
Frida Kahlo, très connue. Je rencontre une amie à moi, qui connaît très bien le Mexique, et l'espagnol évidemment, et qui me dit, écoute, je ferais bien un bouquin sur Frida Kahlo, et sur un tableau en particulier très, très fort. Et, parce que c'est toujours un tableau, pas l'œuvre entière. Et je lui dis, écoute, il faut que tu trouves un angle, il faut toujours un angle, il faut trouver un narrateur. Et je te propose, de prendre Diego Rivera, qui a été l'amant, le mari, tout, qui passait son temps à courir les filles, elle, à courir les hommes, ils avaient une relation intense. Et c'est lui qui raconte. Mais ça change tout. Il raconte, mais là, ça c'est fou. Une autre amie, qui est une fille marrante, elle est drôle, elle a fait un bouquin sur Hopper, et un autre sur O'Keeffe, qui est moins connu, et elle fait un troisième bouquin sur Nikki de Saint-Phalle. Alors là, c'est Nikki qui parle. Bon, c'est pas triste, hein, c'est un talent, une vivacité. Ça, je prends mon pied, je me retrouve, je dis, là, j'invente.
Et ça rejoint votre passion de collectionneur d'art. Est-ce que vous êtes bibliophile aussi, Henri Dougy?
Non.
C'est plutôt l'art. Hein.
Non, c'est l'art, plutôt, oui.
Pourriez-vous nous parler de votre collection?
Alors, c'est des trouvailles. Alors, j'ai fait plusieurs trouvailles à l'Halle Saint-Pierre, un peu art brut. Ils font du très bon boulot. C'est un couple qui s'occupe de ça, des expos. Ils s'appellent Hay, je pense. Hay. Et du coup, je découvre ce garçon qui a fait ça, que j'adore.
Bon, oui, je vois.
Qui habite Montreuil. Très sympa.
Donc plutôt art brut.
J'aime bien art brut. Ensuite, c'est des morceaux. Vous voyez, voilà, c'est Scam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est des sculptures africaines. Ça, c'est des trucs. Ça date d'il y a.
Depuis longtemps, vous?
Ah oui, depuis longtemps. Oui, depuis longtemps.
Donc pas bibliophile, plutôt visuel.
Pas bibliophile,
hein.
Plutôt visuel. Tu vois, bon, là, c'est un garçon que j'ai rencontré. Là, c'était il y a très longtemps. Mm-hmm. Que vous regardez là-bas, c'est une prochaine collection.
Oui. Oui, voilà. Donc,
regardez, c'est une prochaine collection.
Donc, on va revenir. Alors, c'est vrai que vous dites, tout en développant nos activités éditoriales, j'avais envie aussi d'organiser des événements, ce qui est votre cas, pour manifester de manière concrète notre présence sur le terrain social. Car faire des livres, c'est très bien, oui, mais c'est insuffisant. Tout le monde ne fréquente pas les librairies. Donc, vous, ce qui vous intéresse aussi, Henri Dougier, c'est la présence en librairie, la présence avec le lecteur, le vivant, effectivement, on retourne dans le vivant. C'est-à-dire,
ça
peut être une librairie, ça peut être une bibliothèque, ça peut être, c'est là où le livre devient vivant.
Et puis trouver des auteurs, encore une fois, qui parfois n'ont jamais écrit de livre.
Ouais.
C'est ça que je trouve merveilleux, c'est de dire, cette collection qui est d'une qualité forte, je prends un exemple, je le dis à l'avance, comme ça on aura un garçon que je connais, qui a écrit pratiquement jamais, qui a beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité, et qui me fait un Frangelico. Et c'est un texte étonnant, de poésie absolue. Et il est en train de là d'écrire une pièce de théâtre. Donc, il m'envoie son truc. Bon, c'est ça que je veux faire, c'est ça. C'est que quand je provoque quelqu'un, tout d'un coup, ça enclenche une écriture, une émotion. Je marche, en fait, d'émotion en émotion.
Et voilà, vous marchez sans arrêt.
En fait, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui. C'est ça. Et c'est. Alors, ce qu'on peut me reprocher, c'est que c'est peut-être l'objet que l'on porte sur la personne. C'est peut-être au fond.
Oui. Vous avez une démarche conceptuelle. Vous pourriez être un artiste conceptuel. Parce que le concept. Bah oui. Autrement, c'est un concept que vous avez décliné à l'infini. Mais alors, je voudrais dire aussi pour nos auditeurs, c'est que dans votre livre, il y a des épisodes. Par exemple, il y a une rencontre, je crois, avec François Mitterrand, où il y a une soirée mémorable avec les Rita Mitsouko. Enfin, oui. Voilà, il y a des choses pétillantes. Vous dites, dites-vous, le sentiment que j'avais joué le rôle de l'ensemble d'idées, mais je ne pouvais pas aller plus loin sans risque de me prendre pour ce que je n'étais pas, un ministère ou une fondation culturelle. Vous avez toujours de la distance par rapport à vous-même aussi. Vous ne voulez pas jouer votre rôle complètement. Vous aimez le jeu de la vie, mais...
Oui. Non, mais je me rends. J'ai du mal à me positionner comme avec un statut. J'ai du mal.
Avec une statuaire...
J'ai du mal.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, je n'avais aucune idée préconçue sur les attentes supposées du public. Je voulais simplement rester dans la ligne d'autrement. Ça, c'est important, par contre, d'avoir une cohérence.
Il y a une cohérence, toujours. Je me casse. La trajectoire, elle n'est pas cassée.
Et il y a quelque chose de très important que vous évoquez, et ça, je suis assez d'accord. Le grand auteur, pour moi, c'est celui qui emporte, qui invente des personnages sans lesquels, ensuite, on ne peut plus vivre.
Oui.
Ah, c'est vrai, parce que le roman, c'est vraiment la création de personnages.
Quand on lit, on somnambule. Et on va dire, c'est un petit peu ce que je veux faire avec ces histoires des mythes.
Ah ben. Mais quels sont les personnages de la littérature qui vous ont, dont vous vous êtes senti proche, adolescent, jeune homme, les personnages qui vous ont.
Adolescent, c'est une piste.
Oui.
À l'époque.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Bon, C'est certain, j'ai adoré Alexandre Dumas. Bon, c'est oui. Tout Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas.
Tout Alexandre Dumas. J'adore Zola.
Ah bah oui, parce que ça rejoint la...
Zola, c'est enfin, la qualité d'écriture. La qualité d'écriture est incroyable. Et il n'était pas... Enfin, il était connu très vite, mais il n'a pas eu... Aujourd'hui, son statut est en dessous de Balzac, en dessous de Flaubert, en dessous de plein d'autres grands auteurs. Or, pour moi, c'est un grand auteur.
Et puis, les carnets, le côté reporter, l'enquête.
Toute l'enquête.
Parce que vous auriez pu être journaliste.
Alors, moi, j'écris pas.
Ouais.
J'écris pas.
Ouais. Vous écrivez pas, pas de carnet,
non,
pas.
Non, j'ai pas de... non, j'écris pas. Bon, c'est un peu tard, enfin bon.
Mais est-ce que tous ces livres que vous avez publiés, c'est un peu toute la somme de ces livres, c'est votre livre. Enfin, c'est.
Oui, c'est un petit peu ça. C'est des facettes de moi. C'est vrai. Si je la regardais devant moi, j'ai dit oui. Et parce qu'on avait quand même trois volets. On avait le volet des sciences humaines. Ça, c'est le démarrage, c'est la raison d'être du départ. Et j'ai ajouté à ça la littérature en me disant, mais je ne peux pas être éditeur sans publier des romans.
Ben oui.
Et j'ai cherché, et j'allais que soir Georges Brassens, au petit marché là, le dimanche matin, je crois que c'est ça, j'y allais beaucoup à l'époque, pour renifler et voir des bouquins disparus et qu'on pouvait rééditer. Et après, il y a aussi littérature pour la jeunesse.
Et ça, c'est important.
Alors ça, c'est très important.
Ça a évolué, ça a considérablement alors, évolué.
Je me souviens, par exemple, il y avait encore les bouquins là, il y a toute une série qu'on a fait qui s'appelait... Alors là, c'est pas moi qui ai inventé, là. Là c'était complètement fait par des équipes extérieures. Les romans sans parole. Et c'était des graphistes qui s'amusaient à faire un récit, une action d'animaux, ce qu'on voudra, mais sans parole. Donc, c'est fait pour être lu et dialogué avec la mère, le père qui est à côté. Donc, c'est merveilleux. C'est un rapport pour inventer une histoire avec. Mais on a fait plein de bouquins pour enfants, c'était hallucinant.
Et vous avez vraiment...
ce mélange de tout. Cette fraîcheur aussi, cette fraîcheur. Les bouquins pour enfants, j'adorais le salon de Bologne. C'était merveilleux parce qu'il n'y avait que des bouquins pour enfants. Et c'était. Personne ne se prenait au sérieux. C'était. C'est un autre champ.
Alors, entre 1975 et 2011, 1500 titres en sciences humaines, 300 titres en littérature, 400 titres en jeunesse, ça c'est autrement. Après, comme vous, la retraite pour vous, je pense que c'est pas un mot pour vous,
voilà.
Henri Dougier. Et après, donc, vous avez créé les ateliers Henri Dougier. Donc, le mot atelier suppose que peut-être le rythme est un rythme plus artisanal.
Un rythme artisanal, oui, tout à fait.
Avec oui, quand même, oui. Vu sur la... Enfin, c'est accessible, enfin, c'est toujours ce côté artisanal, enfin, proche.
Par exemple, je voulais faire, peut-être créer des événements, comme j'avais fait avec les fêtes jeunes créateurs, ou avec les ateliers d'octobre, etc. Et je m'étais dit, tiens, ça serait amusant de valoriser le papier et le carton. Car dans la création... sculpture ou autre, bon, on parle peu de papier et de carton en soi. Bon. Et je fais ma petite enquête avec une amie qui est sur Internet, et elle trouve, à l'échelle mondiale, environ 200-250 peintres, sculpteurs, artistes, bref, qui manipulent le papier ou le carton pour en faire des œuvres en volume. Pas à plat, mais en volume. Il y a... une fille de Borgrave qui était à Bruxelles, qui fait des robes, des chapeaux, des machins comme ça, tout ça. Il y a beaucoup d'architectes qui travaillent tout le temps en volume. Bon, je fais le tour des lieux qui pouvaient exposer une éventuelle exposition de papier-carton en volume du monde entier. Ça, c'était jamais fait. Et j'interpelle plusieurs musées. Tout le monde me dit, mais Dougier, vous êtes éditeur, vous n'êtes pas conservateur de musée, vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez... Bon, non. Et je me dis, on est en France, il faut rester dans son truc, il ne faut pas en bouger, on est là, c'est bien. Bon. Et je vais à Londres quelques mois après, et qu'est-ce que je vois à la galerie très connue à Londres, qui s'appelle Saatchi & Saatchi, qui sont des grands collectionneurs et mécènes, et qui ont un lieu formidable, Pepper. Bon, c'est pas vrai. Je vais voir Pepper. Il y avait en effet beaucoup de papier carton à plat, et quelques-uns en volume, mais je n'ai jamais réussi à ça, c'était mon rêve, mais il me fallait 1000 mètres carrés. Bon, c'est pas évident de trouver 1000 mètres carrés pendant plusieurs mois, c'est pas évident. Ouais. Bon.
C'est le projet aussi, nous jeunes, enfin, c'est les livres graphiques pliés de ces espaces.
Alors, ça, c'est un projet qu'on continue.
Oui.
On a fait, nous
pour des
jeunes.
C'est une série de journaux réalisés par des jeunes, c'est ça.
Voilà. Hein. C'est ça dont je parlais, qui s'appelle. Voilà. Ça s'appelle Nous jeunes. Il y a aussi, en dehors des Nous jeunes, on a fait Nous les vieux, ou nous les anciens plutôt, Nous les anciens, et on avait ça avec des EHPAD. On allait voir les EHPAD et on leur disait « Attendez, vous avez des choses à raconter. Eh bien, racontez-les. » Eh bien, ils se prenaient piqué au jeu. Il y en avait qui étaient dessinés bien. Enfin, mais évidemment, ils ne sont pas morts à 80 ou 90 ans. Bon, voilà. Mais c'est difficile. Il faut financer. C'est pas vendu.
Ouais.
C'est pas diffusé. Donc, il faut trouver le financement. Bon, je ne fais pas de dessin. C'est difficile.
Ouais, c'est difficile.
C'est difficile.
Alors, ma dernière question, Henri Dougier, c'est un peu, quelle serait... Alors, voilà, la dernière... Mon souhait, mon seul souhait, est qu'à l'heure de ma mort, on se retourne sur ce que j'ai fait et que l'on dise, merde, quand même, ce n'était pas si mal. Il a pris des risques. Il a tenté des choses, ce Dougier. Henri Dougier, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un jeune éditeur qui commence l'aventure qui vous a passionné toute votre vie?
Ah, mais il ne se pose aucune question. Il faut qu'il ait une idée, quand même. Il faut qu'il ait une idée. C'est gênant. Mais il ne faut pas qu'il se pose la question de l'argent, si possible, parce que le champ de l'édition, c'est que ce n'est pas très cher à faire en impression. Un livre comme celui-là, vous le tirez à 2000 exemplaires, il vous coûte, mettons, 2500 euros. C'est pas une somme colossale. Donc, en équipe de copains ou de famille, on peut trouver les 10, 20 000 euros qui permettent d'asseoir une petite boîte et on démarre tout petit. Un bouquin, deux bouquins, mais bien choisi, bien fait, bien. Et puis ensuite, voilà, par progression, on a démarré avec 4 bouquins trimestriels. La chance qu'on a eue, c'est de jouer à l'époque sur ce réseau abonné et de vendre les librairies. Ça nous a aidés. Cette formule-là. Aujourd'hui, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'abonné.
Non. Non, mais vous avez toujours des projets.
Mais j'ai toujours des projets, c'est vrai. Mais je me pose la question d'un jour, il faut bien que. Oui, bon.
Ouais.
Il y aura une fin.
Mais en tous les cas, il n'y a pas. On a l'impression, Henri Dougier, il n'y a pas de point final avec vous. Hein. C'était important, ce livre, pour vous, je pense.
C'est important aussi pour dire à mes enfants, pour m'excuser. Honnêtement, j'ai fait en me disant, mais il fallait bien que je dise quelque chose. Je leur ai envoyé, il n'y a pas longtemps, même après la sortie en librairie, je n'osais pas presque leur redonner. Je leur ai dit, voilà, parce que je vous ai quelque part un peu abandonné sur la route. Ils sont tous très bien débrouillés, hein, donc il n'y a pas de souci, donc ça, ils sont bien débrouillés. Mais quand même, je me rends compte qu'effectivement, ils ont eu un père absent.
Mais un éditeur présent.
Un éditeur présent. Alors, est-ce que l'un compense l'autre? Est-ce qu'ils peuvent être... Je ne sais pas.
Bon. Écoutez, merci à vous, Henri Dougier, pour ce livre, La quête éperdue d'un éditeur impatient, amoureux du vivant et du beau. Ça vient de paraître aux ateliers Henri Dougier. Merci à vous.
Bravo. Merci infiniment pour votre écoute.
Merci.
de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir.
Nous étions quelques-uns venus pour boire un verre. La soif et l'occasion regroupent les larrons. Nous n'avions besoin que d'une simple lumière, de quelques tableaux chauds, de bière à la pression. Qui se souvient plus tard des multiples rencontres? On oublie peu à peu ces fugaces voisins. Des images parfois au hasard qui remontent, rapportent des morceaux de ces puzzles lointains. De nos conversations, il ne subsiste rien. Que pourrait-il rester? On ne s'écoutait pas. Le bruit des mots faisait que l'on se sentait bien. Chacun parlait pour lui en dégustant sa voix. On a dû en louper de ses chagrins d'amour, de ses cris de détresse sur des vies d'infortune. J'ai vu chialer des brutes au milieu d'un discours et rire des poivrons en évoquant la lune. C'est dans ces brumes-là qu'aime arrivait plus tard, interrompant le rythme de ce brouhaha, mesurant son effet sur le bar. L'instant d'après, la marche reprenait son pas. Le temps passant par là et l'usage établi, elle continuait sa tournée tous les soirs. J'aurais voulu donner pour qu'elle me sourie. Elle n'acceptait rien, même pas de me voir. Qui venait-elle chercher et qui pourrait le dire? Convoité chaque fois méprisé. Quand elle cédait, c'était chaque fois un peu pire. Celui qui obtenait s'empressait de briser. J'ai haï ces braillards étalant leur conquête, l'impudeur des victoires remportées malgré moi. L'idée de ces héros réduise à leur braguette, et je te garde M, une place de choix. Nous étions quelques-uns venus pour boire un verre. La soif et l'occasion regroupent les larmes. Nous n'avions besoin que d'une simple lumière, de quelques tableaux chauds, de bière à la pression.
Je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Et je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent. et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je me l'ai